engagement, c'est essayer de changer le monde avec ses copains.
C'est savoir donner le meilleur de soi-même envers une cause qu'on défend. Savoir donner son humanité.
Un peu plus de solidarité, un peu plus de sens.
Pour moi, l'engagement associatif, c'est une expérience humaine inoubliable.
Je pense qu'il faut le faire, au moins une fois dans sa vie. S'engager, il faut le faire pour soi avant tout, et ensuite, il faut aussi le faire pour les autres.
En fait, c'est quoi la fève?
C'est la convivialité.
Bonsoir tout le monde, il est 18h, vous êtes sur Radio Pulsar, bienvenue dans À l'Asso, l'émission qui parle d'engagement associatif. Ce soir, nous recevons le collectif Equinox.
Nous retrouvons à notre table Tom, coordinateur intervention préventive.
Bonsoir.
Seront également présents à mes côtés pour co-animer l'émission avec moi, Katel, bonsoir.
Bonsoir.
Lucia, bonsoir.
Bonsoir Mélissa.
Ilona, bonsoir.
Bonsoir.
Enfin, mais pas des moindres, Gilles à la régie, bonsoir.
Bonsoir.
Dans un premier temps, Tom, depuis combien de temps son association existe-t-elle ?
Alors, l'association, elle a été créée en 2004, donc elle vient de fêter ses 20 ans, et c'est pour ça qu'on a organisé une petite soirée entre nous ce week-end pour fêter cet événement-là.
Et dans quel but elle a été créée, cette association ?
Elle a été créée dans le but de faire de la réduction des risques, c'est-à-dire réduire les risques en milieu festif, donc c'est les risques qui sont liés à la fête, qui sont liés à nos propres consommations en milieu festif.
Et pourquoi avez-vous choisi de l'appeler Equinox ? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, Equinox, c'est un peu à l'inverse de quand il y a le plus grand jour l'été et la plus grande nuit l'hiver, donc les solstices. L'équinox, c'est quand il y a autant de jours que de nuits. Donc, Equinox, ça symbolise vraiment l'équilibre entre le jour et la nuit, l'équilibre dans le milieu festif, l'équilibre dans la fête entre savoir s'amuser, savoir peut-être boire une bière un petit peu en milieu festif et sans trop abuser, sans trop tomber de l'autre côté. Voilà.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail de l'objectif de ton asso, du coup ?
L'objectif, donc, c'est vraiment de pouvoir réduire les risques liés à la fête, donc éviter par exemple les personnes qui sont... imaginons, il y a une personne qui a consommé trop d'alcool en festival. La plupart du temps, en festival, les secours vont pas être... Enfin, quand je dis les secours, c'est la veille sanitaire qui est sur place, comme la Croix-Rouge ou la Protection Civile, vont pas être trop habitués à gérer quelqu'un qui est ivre-mort et qui va peut-être leur pourrir un peu la vie. Donc, ils vont avoir tendance, en fait, à les évacuer. Et cette évacuation, ça nécessite du personnel, au moins deux pompiers, un véhicule. Puis ensuite, ça va occuper un lit d'hôpital pendant toute une nuit. Nous, notre but, c'est de désengorger les hôpitaux, parce qu'on a de moins en moins de lits, on le sait. donc de désengorger les hôpitaux pour privilégier le personnel soignant sur des trucs un peu plus graves. Parce qu'en fait, quelqu'un qui est trop bourré, simplement, à l'hôpital, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le mettre dans un lit, ils vont le surveiller et ils vont juste faire attention à ce qu'il dorme bien et ce qu'il respire, tout simplement. Donc ça, on peut le faire. Et voilà un petit peu le but. Après, il y a plein d'autres petits points qui sont un petit peu plus sous-jacents, mais je pense qu'on en parlera par la suite.
Et est-ce que tu penses que l'objectif, il est atteint ou est-ce qu'il y a encore des choses à faire pour s'améliorer ?
Il y aura toujours des choses à faire tant qu'il y a des gens qui vont faire la fête et tant qu'il y a des gens qui vont se faire surprendre par les consommations. Il y aura toujours des choses à faire, mais on essaye de faire au mieux et on a une équipe de volontaires, de bénévoles, de services civiques, de stagiaires et de salariés qui sont super et qui font du super travail sur le terrain.
Est-ce que tu as des chiffres clés qui décriraient bien l'impact de votre collectif ?
Alors les chiffres clés, je crois que l'année dernière, c'est un peu plus de 80 événements. Alors je ne les ai pas en tête, mais un peu plus de 80 événements couverts. Et on a fait aussi une bonne trentaine de sorties au centre-ville de Poitiers, parce qu'on intervient aussi au centre-ville de Poitiers les jeudis soirs quand il y a des soirées étudiantes. On a distribué peut-être 30 000 paires de bouchons d'oreilles. Je sais plus combien de milliers de préservatifs. Enfin, on distribue beaucoup de matos et on intervient sur beaucoup de gens. Ensuite, on intervient aussi dans le milieu scolaire, donc à la fac, au lycée, au collège, ce qu'on appelle des interventions préventives. Et ça, l'année dernière, à Vunay, on en a fait 35 à peu près et on a touché un bon gros millier d'élèves, voire un peu plus.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rôle et de tes missions du coup dans l'asso ?
Alors moi, mon rôle, c'est vraiment de faire ces interventions préventives là dans le milieu scolaire. Donc mes missions, ça va être d'aller dans une classe, aller au sein d'un établissement. Par exemple, on intervient pour Parler Moi d'Amour, qui est une semaine sur le thème de la sexualité au lycée du Dolmen. Là-dessus, on va parler de sexualité pour le coup. Mais par exemple, on peut avoir des cas de comportement qui peuvent être un peu problématiques de la part de certains élèves. Là, je ne vais pas citer d'établissement bien sûr, mais des cas, je sais pas, par exemple d'homophobie ou de choses comme ça qui sont... qui sont pas vraiment de la méchanceté, mais plus de l'ignorance. Et dans ce cas-là, nous, on y va pour vraiment discuter avec les élèves et répondre à leurs questions, etc., quand les enseignants sont un petit peu débordés par ça. Et enfin, par exemple, on peut intervenir sur des classes de plus grands, comme l'IUT, Poitiers, Niort, Châtellerault, où là, on va vraiment parler à des étudiants qui sont en première année, qui vont faire la fête. On va leur parler des dangers de la fête et de comment bien faire la fête et pas se mettre en danger, tout simplement.
Et on suppose que tu n'es pas tout seul à faire cette prévention et ces interventions-là. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les autres types de rôles et de missions avec des personnes qui t'accompagnent dans l'asso?
Alors, donc, moi, je m'occupe vraiment de ça. Ensuite, il y a Anaïs qui, elle, est la coordinatrice du milieu festif. Elle va organiser, elle va rentrer en contact, elle va être en contact avec les organisateurs d'événements et elle va vraiment gérer toutes les inters, etc., les équipes de bénévoles. Là, dans vraiment pas longtemps, on va embaucher une autre personne, Léo, qui va être le responsable des interventions, enfin le coordinateur des interventions funambules. Donc le dispositif funambule, c'est le dispositif qu'on a mis en place avec la mairie et l'université de Poitiers pour intervenir au centre-ville de Poitiers. Donc Léo va gérer ça. Il y a aussi Florent, qui lui est un peu notre chef de service. Il est là depuis le début, il a contribué à la création d'Equinox. Et il nous aide un peu sur tous les plans, il a fait du festif, c'est lui qui faisait la majorité des interventions préventives avant et qui m'a formé à ça. Et donc il continue actuellement à en faire, il fait surtout les stages stup, en fait, quand on se fait arrêter avec une salivette positive au volant, on est obligé de passer un stage qui coûte 250 € et c'est lui qui anime ce stage.
Et est-ce que vous avez des stands pendant les événements où vous intervenez ou est-ce que vous avez un numéro où on peut vous appeler pour dire « bon ok, là je vais pas bien, j'ai besoin d'aide ».
Alors on a des stands et on fait aussi des maraudes parce que quand on n'est pas bien, on est un peu pris de court et ça peut arriver qu'on soit tellement fatigué qu'on s'endorme un petit peu à l'abri de la lumière, à l'abri des regards pour être un peu tranquille. Et c'est pour ça que nous, quand on est sur un festival, en plus du stand, on fait des équipes de maraudes, de préférence mixtes, pour faire le tour, passer derrière la scène, etc., voir s'il n'y a pas quelqu'un qui aurait été un peu oublié ou qui serait dans l'ombre et qui n'aurait pas été vu par des gens. Donc on n'a pas de numéro, on ne peut pas vraiment nous joindre sur le festival, mais nos bénévoles et nos intervenants en fait sont très visibles avec une veste verte et notre stand, on essaye de faire en sorte qu'il soit le plus visible possible et surtout sur le chemin des gens, dès l'entrée, pour pouvoir prendre des bouchons, du matériel, pour passer une bonne soirée.
Est-ce que c'est possible de faire des dons du coup pour Equinox?
Oui, c'est possible, on a un Hello Asso que je vous communiquerai un peu plus tard.
Comment est-ce qu'on fait pour devenir bénévole dans votre asso?
Le mieux, c'est de nous envoyer tout simplement un mail ou de prendre contact avec l'un d'entre nous, avec le souhait de devenir bénévole. Et à partir de là, ça dépend quand est-ce qu'on est dans le mois, à quelle date on est. Mais en début de mois, on vous invite à venir à notre réunion. On fait une réunion tous les premiers mardis du mois pour revenir sur les interventions qui sont passées et pour revenir sur les interventions qui sont à venir. Ça va vous permettre de vous placer sur des interventions, sur des festivals où vous avez envie d'aller. Et ensuite, vous serez un peu en observation. Après, ça va dépendre aussi du rapport que vous avez à la fête. Si vous avez l'habitude d'être en milieu festif, en festival, en free party, etc., ça sera plus facile pour vous. Si vous n'avez jamais fait de festival, ça sera un peu plus compliqué. Donc, il y aura un peu plus d'observation. Il y a des gens qui vont être très à l'aise avec cette RDR, d'autres un peu moins. En fait, ça dépend au rythme de chacun, mais globalement, c'est très, très accessible.
Et est-ce que vous cherchez encore des bénévoles ou vous avez déjà votre équipe complète?
On cherche toujours des bénévoles. On est toujours en recherche de bénévoles parce qu'on ne peut pas demander... Là, par exemple, cet été, si on sort l'agenda, on a, à partir du mois de mai, on a 2 voire 3 événements par week-end. Et on ne peut pas demander à des bénévoles de prendre tous leurs week-ends, tout l'été, pendant 4 mois, alors qu'ils sont justement bénévoles. Donc, il y a un roulement au niveau des bénévoles. On a des personnes qui vont être là très souvent, des personnes qui vont être là 1 ou 2 fois par an. Donc, on est toujours en recherche de bénévoles, oui.
Et est-ce qu'il y a des périodes où vous avez vraiment besoin de plus de bénévoles que d'habitude, par exemple l'été avec tous les festivals, ou est-ce que vous avez des périodes plus calmes? Ça se passe comment?
Alors, on a des périodes effectivement plus calmes, l'hiver, novembre, décembre, janvier, février, généralement, il n'y a pas beaucoup d'événements, bien que... Cette année, il y a eu de plus en plus d'événements, notamment dans le centre-ville de Poitiers, Confort Moderne, etc. Et l'été, c'est notre période qui est chargée avec 2, 3, 4 événements par week-end.
Place à la musique, nous revenons après cette immersion sonore. Je vous propose d'écouter Tu ne vois rien de Petit Fantôme, on se retrouve tout à l'heure. Il n'y a pas la musique. Il y a un problème avec la musique. C'est pas grave.
On est désolé, c'est pas grave. On va continuer l'émission. Il n'y a pas de souci.
Marie-Jeanne nous dira.
euh, du, enfin, donc j'avais une question. Auprès de quel public elle intervient en général, vraiment, parce que donc il y a les étudiants, il y a les jeunes, il y a les festivals, les soirées. Mais est-ce que c'est que dans ce milieu-là ou pas du tout?
Globalement, c'est le public qui fait la fête. Alors tout le monde fait la fête, donc on intervient avec tout le public, tous les publics. Mais oui, on va pas intervenir, quoique on pourrait, j'allais dire, en maison de retraite, mais je vois pas pourquoi ils feraient pas la fête. Donc on intervient vraiment auprès de tous les publics, mais on laisse en fait la possibilité au public de s'approprier la démarche de la réduction des risques. C'est-à-dire qu'on va pas être dans l'allée vert, on va pas démarcher les festivals pour qu'ils nous contactent, mais on va plutôt attendre que les festivals aient envie d'avoir un stand de réduction des risques pour nous contacter.
La musique est enfin revenue, donc je vous propose qu'on réécoute Tu ne vois rien de Petit Fantôme, on se retrouve juste après.
Pulsar.
Il est 18h14, vous êtes sur Radio Pulsar, bienvenue dans l'émission À l'Assaut, on parle d'engagement associatif. Ce soir, nous recevons le collectif Equinox. Pour rebondir avant la coupure musicale, j'aimerais savoir, Tom, ça fait combien de temps que tu fais partie de l'association?
Moi, ça va faire 7 ans, je crois.
Et bon, pourquoi t'as choisi de rejoindre cet assaut?
C'était un truc un peu naturel, en fait, j'ai toujours fait partie du milieu associatif depuis que j'ai 12-13 ans. Et du milieu musical notamment, Et quand j'étais en soirée avec des potes, j'ai toujours un peu tenu les cheveux de ceux qui vomissaient. Donc c'était un petit peu naturel. J'ai rejoint une autre association qui s'appelle les Amis des Femmes de la Libération, dont la présidente Emma, je crois, a une émission sur Pulsar, de mémoire. Cette association-là, en fait, était en partenariat avec Equinox. Donc j'ai croisé Florent Gaillard, notre chef de service actuel. Je l'ai croisé en festival, je lui ai demandé en gros, tu fais quoi derrière ton stand? Il m'a dit, on aide les gens à passer une bonne soirée. J'ai dit, pourquoi pas? Et puis j'ai pris les doigts dans l'engrenage et depuis, c'est foutu, je suis encore dedans.
7 ans, en plus, c'est beaucoup. Mais est-ce que du coup, tu fais ça à temps plein ou est-ce que tu as autre chose à côté?
Alors moi, je suis pas à temps plein, je suis en 24 heures. Je suis salarié de l'association en 24 heures. Et à côté, j'essaye de développer mes propres projets musicaux et puis juste prendre le temps de vivre, quoi, tout simplement.
C'est trop chouette, mais j'adore. du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer, est-ce que tout à l'heure tu l'as évoqué brièvement pendant l'introduction, quels sont les événements que vous organisez avec Equinox?
Alors, on n'organise pas d'événements, sauf ce week-end, on a organisé nos vatans entre nous, donc on a invité les anciens bénévoles et les bénévoles actuels pour un petit peu se taper soi-même sur l'épaule. Mais on n'organise pas d'événements. En fait, c'est les organisateurs qui vont nous démarcher, nous contacter pour qu'on monte un stand ou pour qu'on intervienne sur leurs événements. C'est pour ça que je ne peux pas vraiment vous communiquer de date ou quoi que ce soit. En fait, globalement, ça va être les festivals qui ont déjà été communiqués. On y sera, quoi, dans Poitou-Charentes.
Est-ce que, du coup, par exemple, des fois, il y a des concerts à la Maison des étudiants. Est-ce que vous pouvez être contacté par ces événements-là et vous intervenez? Enfin, c'est vraiment... Sur tous les événements, ça peut être concert, juste des soirées ou des trucs vraiment particuliers? Je ne sais pas si c'est clair ma question.
Si, c'est clair, mais c'est vrai que globalement, c'est des événements musicaux.
Ok.
Quand c'est... Non, j'ai dit une bêtise. On est contacté par la MDE parfois parce qu'on est en partenariat aussi. On travaille en partenariat avec la MDE qui nous finance. Donc, ils nous contactent pour certains concerts, certains types de concerts. Quand c'est des concerts qui finissent à 23h ou c'est de la musique folk, par exemple, on se dit qu'il va y avoir peut-être moins de consommation que quand c'est un concert dub, par exemple, qui va finir à 5h du matin. Donc, ça va vraiment dépendre. Et on intervient aussi sur les soirées étudiantes. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une bêtise quand je dis qu'on parle que de musique, mais... les soirées étudiantes où il n'y a pas spécialement vocation à écouter spécialement de la musique, mais juste à se regrouper et faire la fête ensemble.
Est-ce que vous avez été formé spécialement pour pouvoir animer les ateliers que vous proposez?
Moi, personnellement?
Oui.
Oui, j'ai été formé par Florent, qui, lui, les faisait avant. Après, j'ai fait un master pour être instituteur, donc ça m'a aussi pas mal formé à pouvoir prendre la parole devant un groupe, devant une classe. Et après, c'est de la formation un petit peu continue, essayer de se renseigner sur les nouvelles pratiques, sur les nouveaux produits, sur les nouvelles problématiques, par exemple. Mais oui, j'ai suivi Florent pendant un certain temps lors de ses interventions pour me former.
Et en parlant d'intervention et de prévention, est-ce que tu pourrais expliquer aux auditeurs ce qu'est une substance psychotrope?
Alors, une substance psychotrope, ça va être une substance qu'on va ingérer et qui va nous mettre dans un état de conscience modifié. Vulgairement, on peut dire que c'est de la drogue, quoi, tout simplement. Mais voilà, ça va. Le drogue, ça, c'est vraiment un terme qui va avoir une connotation illégale. Par exemple, on parle très peu de l'alcool comme étant une drogue, même si de plus en plus, ou du sucre. Par contre, comme substance psychoactive, c'est vraiment quelque chose qui va agir sur notre cerveau. Donc l'alcool est une substance psychoactive, tout comme le sucre.
Et comment ça se passe quand vous intervenez auprès des gens qui ont besoin d'aide? Par exemple, vous rencontrez quelqu'un dans la rue qui est à moitié allongé, donc vous appelez directement les pompiers, vous restez avec lui jusqu'à ce qu'ils arrivent ou vous faites autre chose?
Ça va dépendre. Si son pronostic vital est engagé, oui, on va appeler les pompiers, bien sûr. Mais s'il n'y a pas nécessité d'intervention des pompiers, on ne va pas le faire. On va simplement voir comment il va, qu'est-ce qu'il a consommé. On va essayer de rentrer en contact avec lui, comment on peut faire pour l'aider. Peut-être qu'il a des potes dans le coin, peut-être qu'on peut appeler quelqu'un qu'il connaît, qui est pas loin, etc. Alors ça, c'est dans la rue. Dans la rue, c'est toujours un peu plus compliqué parce que c'est un cadre qui est ouvert. C'est-à-dire, ça peut être quelqu'un qui est tout seul et là, ça va être compliqué. S'il habite pas là, etc., on peut pas non plus, s'occuper de lui ad vitam aeternam. En festival, c'est un peu plus facile parce que souvent, on vient avec notre groupe de potes, donc on a vite des numéros, vite des gens à joindre. Et puis, les gens passent au stand quand ils ont perdu un de leurs amis. Ils passent au stand. Est-ce qu'il est là? Ah oui, effectivement, il est là. Donc, mais on va voir si les signes vitaux sont là ou pas. Donc si la personne respire normalement, est consciente, répond, on va pas s'alarmer et on va chercher à savoir un petit peu ce qu'il a consommé, dans quelle quantité, pour pouvoir s'occuper de lui au mieux.
Donc on a pu voir que vous étiez une équipe pluridisciplinaire de professionnels. De ce que j'ai pu entendre, il faut avoir un minimum la formation PSC1 quand même, ce serait bien. Et c'est quoi en fait les professions qui sont proposées par les professionnels?
Comment ça les professions sont proposées?
Quelles sont leurs professions?
Oui,
quoi.
Quelles sont leurs professions? Ouais. J'ai mal posé ma question, désolée.
C'est un peu dur à répondre comme question. En fait, on est salarié de l'association, donc c'est pas une... On n'a pas un titre de profession à proprement parler, on va faire plusieurs tâches. Par exemple, Anaïs, qui est coordinatrice du pôle festif, elle va gérer les stocks, faire les réassorts, elle va contacter les bénévoles pour des événements, elle va rentrer en contact avec les organisateurs, peut-être qu'elle va conduire les bénévoles jusqu'à l'événement. Ensuite, sur l'événement, elle va coordonner les équipes, peut-être des fois elle va faire des réassurances, c'est-à-dire s'occuper des gens qui sont dans le mal, des fois elle va parler avec la sécurité. En fait, c'est vraiment assez pluridisciplinaire. Et même moi qui vais dans les classes, etc., parfois je vais aussi en événement et je suis payé pour faire ça. Donc il n'y a pas vraiment, comment dire, c'est un cadre qui est assez élastique, quoi.
Et tout à l'heure, tu as parlé des différents outils de prévention. Est-ce que tu pourrais nous détailler ces outils-là? Est-ce que tu parlais de préservatifs, de casques pour les oreilles quand c'est trop fort aussi? Des oui. bouchons, je crois que tu as dit des bouchons tout à l'heure.
Oui.
Est-ce que tu pourrais nous détailler ces outils-là?
D'accord, alors on distribue des préservatifs externes, donc préservatifs masculins, et des préservatifs internes. On appelle ça préservatif interne parce qu'en fait, c'est aussi bien utilisé par les garçons que par les filles. Voilà, il en faut pour tous les trous. Mais y a beaucoup de gens qui appellent ça préservatif féminin, alors que préservatif interne, c'est pour tout le monde, quoi, tout simplement. On distribue donc des bouchons d'oreilles, des casques pour les enfants, parce que les enfants ont des oreilles qui sont plus petites. Donc les bouchons tombent. Pour ça, on a des casques. Par contre, on n'a pas encore, et on pense qu'on va en acheter, des casques bandeaux pour les nourrissons. Parce que les nourrissons ont le crâne qui se déforme, donc un casque qui appuie de chaque côté, ça leur déforme le crâne et c'est pas très bon. On a aussi des roule-tapailles. C'est des choses qui sont faites pour consommer certains produits par le nez plus proprement. Alors certains vont dire que c'est de l'incitation à la consommation, tout comme on a développé le programme d'échange de seringues. Certaines personnes criaient au scandale, comme quoi ça allait pousser les jeunes à s'injecter, alors qu'on a vu que 5 ans plus tard, il y avait 70% de primo-injecteurs en moins. C'est tout simplement pour protéger la santé de ceux qui consomment. On n'est pas là pour interdire, on n'est pas là pour dire c'est bien ou c'est pas bien, on est là pour protéger ceux qui vont faire. Donc, accompagner, tout simplement. On roule tapaille, on distribue quoi d'autre? On distribue en fait énormément de choses, plein de flyers informatifs sur des types de produits psychoactifs, des types de pratiques, etc. Et parfois même, on donne des petits bonbons pour ceux qui ont besoin de mâcher en festival. et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Après, je pense que j'en oublie aussi parce qu'il y a des outils qui sont un peu plus comment dire, spécialisés. Je pense par exemple à du matériel d'injection. Là, on en distribue très peu, mais parfois, ça nous arrive que des injecteurs nous en demandent. Et pour ça, on leur fait passer un petit entretien parce qu'ils sont suivis souvent par des carudes. Et on se demande du coup... qu'est-ce qu'ils consomment, où est-ce qu'ils comptent consommer, est-ce qu'ils ont une poubelle pour jeter ça, parce qu'il y a des poubelles spéciales pour jeter des seringues usagées, etc. On distribue d'autres outils de plus précis, on pourrait faire une longue liste, mais je pense que je vais m'arrêter là.
Qui peut mieux le faire?
Il est 18h26, vous êtes sur Radio Pulsar.
C'est quoi ton problème?
C'est pas grave.
On enchaîne?
Oui.
Dans À l'asso, l'émission qui parle d'engagement associatif. Ce soir, nous accueillons Tom pour nous parler d'Equinox. C'était Fishback, la foudre. Donc là, on va passer à la discussion. Donc moi, je voulais parler du coup du système préventif sur les violences sexistes et sexuelles au sein des événements auxquels vous pouvez participer. Comment est-ce que vous pouvez faire de la prévention là-dessus?
Alors déjà, en offrant un espace pour que les victimes de violences sexistes et sexuelles, de VSS, puissent avoir une parole qui soit écoutée, qui soit reçue sans jugement, sans remise en question, etc. Donc déjà, rien que d'offrir un espace et de communiquer là-dessus, ce que font de plus en plus les festivals, ça offre et ça aide vraiment les victimes de ces violences-là à pouvoir communiquer et du coup à prévenir en fait ces violences-là. Quand un festival va communiquer sur le fait qu'il y a une safe place et un endroit où la parole est recueillie, ça va aider les gens, je pense, et eux aussi pensent, et je pense que c'est un peu quelque chose que tout le monde pense, bref, je m'embrouille. Ça va aider les gens, en fait, à se sentir en sécurité, et peut-être ça peut permettre de prévenir certains comportements.
Et est-ce que tu trouves que la parole, elle s'est libérée autour de ces sujets-là, ou il y a encore des grosses améliorations à faire?
Je trouve que la parole, oui, elle s'est libérée, bien sûr, depuis MeToo, depuis Balance ton porc, etc. Il y a cette parole qui se libère, qui s'est d'abord libérée sur les réseaux sociaux, puis dans certains milieux, je pense au cinéma, je pense au milieu de la musique, assez récemment, avec plusieurs rappeurs qui sont un peu épinglés, bref. Et dans le milieu festif aussi, c'est vrai que le milieu festif, il y avait certains types de musique qui disaient qu'ils étaient une grande famille, etc., que ça se passait pas chez eux, mais en fait, malheureusement, ça se passe partout, et surtout au sein des familles. Donc, il y a encore du boulot, bien sûr, qu'il y aura toujours du travail pour éliminer ces violences-là, mais on est sur la bonne voie, et je pense qu'il faut vraiment pas lâcher. Après, reste encore du boulot hein, quand on voit la difficulté pour aller porter plainte, la charge mentale que ça implique, la manière dont on est reçu au commissariat, etc. Il y a encore des choses à améliorer, mais on perd pas espoir quoi, et on continue à se battre.
Et quand une personne vient vous témoigner que du coup elle a reçu ces violences-là, est-ce que elle peut être prise en charge par un psychologue? Est-ce que vous pouvez faire le lien entre du coup lui donner les infos pour dire ok va consulter un psy, enfin pas lui dire comme ça, mais tu sais genre la guider pour l'accompagner dans cette libération de parole?
Oui, tout à fait. Donc déjà, en fait, c'est en plusieurs étapes. La première étape, c'est de mettre la personne à l'abri entre guillemets. Donc on a des endroits safe, des safe places où il y a personne, il va pas y avoir des interruptions, des gens qui vont rentrer, sortir. Ensuite on va accueillir la parole de cette personne là puis lui donner en fait des outils pour pouvoir avancer par la suite, pour pouvoir combattre ça, lui donner effectivement des contacts, lui donner des adresses, des associations peut-être pour la parole, des contacts de psychologues, CMP, ce genre de choses. On va pas lui dire qu'il faut faire ça, mais on va lui donner les outils pour que cette personne puisse faire. Et on va essayer de l'accompagner en fait au mieux dans ce que cette personne-là souhaite, tout simplement.
Moi, je voulais parler sur le thème de l'engagement. J'aimerais bien poser la question de quel est le rôle de vos services civiques au sein de votre asso?
Alors le rôle de service civique, il va être très différent suivant les profils des services civiques. Par exemple, Léo, là, qui est bientôt embauché comme coordinateur du dispositif Funambule, donc en centre-ville, lui, son rôle en tant que service civique, c'était de gérer ce dispositif-là, justement, parce que Anaïs avait de plus en plus de travail, Anaïs qui est la coordinatrice milieu festif, avait de plus en plus de travail avec la sortie du Covid. Moi aussi, avec les interventions préventives, et en fait il nous fallait quelqu'un qui puisse gérer ça plus ou moins à plein temps entre guillemets. Aussi on a Charlie en ce moment qui est en service civique, qui elle gère la communication, l'Instagram, les visuels. Cette personne poste, enfin Charlie poste deux fois par semaine, une fois des mèmes et une fois des infos. on alterne entre humour et information, c'est un petit peu notre devise, hein, les blagues nulles. Voilà, et là on a un nouveau service civique qui s'appelle Léo aussi, décidément on les collectionne. Et là justement, il va être là, lui, pour nous épauler cet été, parce qu'on a énormément d'interventions et il va nous falloir en fait des forces vives qui soient là tout l'été. Tout ça.
Je sais pas si tu l'as dit, désolé, tu vas te répéter. Combien vous devez être sur un stand, sur un événement, du coup je suppose que vous devez être quand même pas mal.
Ça va dépendre des événements, ça va dépendre des stands. Sur des petits événements, sur des petits concerts ou des petits festivals familiaux, rock'n'roll, où il va pas y avoir de la musique jusqu'à très tard, pas avoir énormément de consommation, un public familial, on peut être deux, trois, ça suffit, hein, ça suffit largement. Après, sur des plus gros événements avec des temporalités plus longues, je pense à, par exemple au festival Millésime, là, celui qui me vient en tête dans pas longtemps, qui lui va se dérouler 24 heures sur 24 pendant 48 heures, donc zéro pause. Là, il faut plus de personnes parce que bah, il faut qu'on puisse tourner, qu'on puisse se reposer, et ça va jouer toute la nuit. C'est le milieu techno, c'est un milieu qui va peut-être avoir certaines consommations un peu plus poussées que d'autres milieux, hein. Je pense au milieu jazz par exemple, ça va pas, voilà, c'est pas les mêmes délires, mais du coup ça nécessite qu'on soit un peu plus nombreux tout simplement sur ces événements là. Là c'est bien qu'on soit 8, 10.
Et en parlant de nombre, est-ce que vous êtes accompagné par d'autres assos? Est-ce que vous faites des collaborations, des partenariats pour que vous puissiez être plus nombreux et que vous puissiez apporter deux fois plus de prévention?
Oui, bien sûr. Déjà, on est en collaboration avec toutes les associations de sécurité civile, hein, la Croix-Rouge, la Protection civile, etc. Mais on est aussi en lien, en contact assez étroit avec toutes les autres associations de RDR, donc réduction des risques, en France. On pense notamment à Technoplus et Corseam, avec qui on fait des interventions ensemble, des interventions en commun assez régulièrement, et qui d'ailleurs dans pas longtemps on va en faire une avec eux. Technoplus, qui est un peu la première association de réduction des risques en France, qui ont 3 antennes, une à Bordeaux, une à Nantes et une à Paris. D'accord. D'ailleurs, ils ont bientôt 30 ans, je crois, il me semble. Donc, on va fêter leur anniversaire dans pas tellement longtemps aussi. Mais oui, on travaille avec d'autres associations. Et heureusement, faut vraiment pas rester seul. C'est le message aussi qu'on véhicule. C'est pour ça qu'on incite les gens à sortir. C'est de ne pas rester seul. L'isolement, ça amène à la déprime. Et travailler ensemble, ça permet de découvrir des nouvelles manières de faire, des nouvelles connaissances, etc. Et une connaissance au niveau du territoire qui est quand même très importante.
Avec toutes ces collaborations, et même sans... Est-ce que vous avez des projets pour 2024?
Des projets, comment ça, des projets?
Des projets, je sais pas, d'accompagnement, des projets, je perds un peu mes mots.
Ouais, d'intervention.
D'intervention,
c'est
oui,
vaste,
voilà.
C'est un projet, ouais, ou des...
C'est très vaste, ouais.
Ouais, peut-être des évolutions, tu veux dire, est-ce qu'il y a des choses qui vont changer en 2024 au sein de votre association?
Des choses qui vont changer, on va essayer déjà de s'améliorer peu à peu dans notre pratique, toujours plus. On essaye aussi de voir avec la mairie pour mettre en place une sorte de navette, hein, qui pourrait faire centre-ville, campus, tout simplement. Alors, c'est en pourparler pour l'instant, mais on essaye d'avancer là-dessus parce qu'on trouve ça assez important. Les jeunes vont faire la fête en centre-ville, les jeunes du campus, les étudiants vont faire la fête en centre-ville. Et avoir une navette, ça permettrait d'éviter du bruit, tout simplement, la nuit. Peut-être des débris de verre, hein, de bouteilles qui sont malencontreusement tombées par terre, ça arrive. Tout simplement pour assurer la tranquillité nocturne de la ville et avoir toujours une ville qui bouge, une ville étudiante et une ville qui fait la fête, et tout simplement contenter tout le monde, les étudiants tout comme les gens qui veulent dormir la nuit.
Vas-y.
Vous avez dit tout à l'heure que vous intervenez aussi en dehors de Poitiers, si je ne me trompe pas.
Oui.
Mais comment vous organisez pour faire ces interventions-là, pour être aussi en dehors? Est-ce que vous avez aussi une équipe là-bas ou comment ça se passe?
Alors, notre équipe est sur Poitiers, après, et les alentours. Hein, tous les bénévoles, les intervenants, les salariés n'habitent pas à Poitiers même. Et quand on intervient ailleurs, par exemple pour le Free Music à Montendre, on prend un camion, on charge tout le matos dedans, on se retrouve à Poitiers, puis on fait la route aller, et puis la route retour après le festival. En fait, on va faire la route et parfois même on est demandé jusqu'à Bayonne. Alors là, Bayonne, c'est 5 heures de route au moins, donc c'est un peu compliqué. C'est pour ça que, pour le coup, là, on a un bénévole qui habite à Bayonne et qui peut se détacher et faire les événements, monter sa petite équipe et faire les événements. On essaye de se débrouiller un peu comme on peut, comme on peut tout simplement, et à faire le trajet. Voilà.
Et vous êtes à combien actuellement dans votre équipe?
Ça bouge beaucoup, mais on est une cinquantaine de bénévoles.
C'est trop bien. En fait, c'est pratique, il y en a besoin, quoi. Donc,
ouais.
Surtout s'il y a un peu partout. Genre. C'est trop bien.
Et est-ce que tu aurais un message à véhiculer pour nos auditeurs? Tu peux faire la prévention. Enfin, est-ce que tu aurais un petit message à faire passer?
Faites la fête, mais faites-la bien.
Ok, je pense qu'on va finir. On va bientôt finir. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter qu'on n'a pas vraiment parlé ou que tu aimerais un peu plus développer? Ou est-ce que pour toi, on a tout dit?
En vrai, c'est assez dur de tout dire. C'est tellement des sujets où on pourrait parler pendant des heures et des heures, des sujets. Et c'est même pas binaire. On peut même pas dire ça, c'est bien et ça, c'est pas bien. Tout est dans la limite, tout est dans la nuance. Donc, j'invite en tout cas tous ceux qui nous écoutent à se renseigner là-dessus, se renseigner sur la fête, sur les consommations, sur la sexualité, la leur, celle des autres. Et tout simplement à écouter tout ça avec respect, bienveillance et non-jugement.
C'est bien, j'allais dire, est-ce qu'on pose la question ultime, mais j'aime bien la fin de...
Oui,
de
ce qui vient de... c'est bien.
Mais du coup, là, il se dit, c'est quoi la question ultime? Donc, on va quand même poser la question ultime. Si tu devais décrire l'asso en un ou deux mots, ce serait quoi? Aha.
Je crois que ça serait en deux mots. Ça serait plus facile qu'en un mot, mais
bah,
ça serait...
Un mot, si tu veux.
Un mot
ouais. Non, il a dit deux mots.
Ah, pardon, excuse-moi.
Mais fête et bienveillance, je pense.
Ok. Top, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci d'avoir été présent à nos côtés ce soir, Tom. Pour rappel, vous pouvez retrouver l'association sur les réseaux sociaux et sur le site. N'hésitez pas à aller faire un tour, le site est très bien fait. Il y a beaucoup d'informations intéressantes à aller voir. Et comme a dit Tom, faites la fête, mais faites-la bien.
Quant à nous, on se retrouve à la même heure sur la même antenne mardi prochain avec l'association Volar. L'émission est proposée par la Fève. Vous pouvez donc nous retrouver nos actualités sur notre Instagram @fève-poitiers. Également retrouver les diverses actualités de Radio Pulsar sur notre Instagram ou sur leur site internet. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et bonne fin de soirée à vous.
Pulsar.
Moi, l'engagement, c'est essayer de changer le monde avec ses copains.
C'est savoir donner le meilleur de soi-même envers une cause qu'on défend. Savoir donner son humanité.
Un peu plus de solidarité, un peu plus de sens.
Pour moi, l'engagement associatif, c'est une expérience humaine inoubliable.
Je pense qu'il faut le faire, au moins une fois dans sa vie. Comme je dirais, il faut le faire pour soi avant tout. Et ensuite, il faut aussi le faire pour les autres.
En fait, c'est quoi la fève?
C'est la convivialité.